Bonjour, bienvenue à la French Connection, épisode 66. Cette semaine, nous allons revenir sur quelques nouvelles qui ont occupé les dernières semaines, c'est-à-dire la fameuse chip mystère qui est installée dans les boards de Supermicro, la fuite d'information chez Facebook, et ensuite le fait qu'un autre pays, qui fait partie justement du Five Eyes, désire encore mettre un backdoor dans la crypto, dans lequel, dans ce cas-ci, Apple s'oppose fortement. Et également deux petites nouvelles un peu plus légères mais intéressantes, Dr. Gengo et les problèmes de sécurité avec Microtik. Maintenant, les shameless plugs. Le 16 octobre, ce qui est imminemment à nos portes, Isaka Québec présente les défis des opportunités d'intelligence artificielle, activité que je vais aller participer personnellement parce que c'est un élément qui va forger notre avenir, donc c'est important de savoir ce qui s'en vient. Le 25 octobre, QuebecSec présentera du hacking sur les jeux vidéo. 2-3 novembre, le Hackfest, la version décade. Événement très très couru. Et de penser à aller regarder, voir les inscriptions pour les éléments qui restent. Je crois qu'il reste peu de place pour le CTF. Social Engineering reste encore de la place. Très intéressant, très important d'y aller. Même si on n'a pas de connaissances spécifiques là-dedans, c'est bien d'aller voir à quel point on est capable. Et que dans des situations comme ça, on est capable de puiser des ressources en dedans de nous qui sont étonnantes. Et en même temps, qui est un outil de sensibilisation autant pour le public que pour les entreprises, à savoir que l'ingénierie sociale est un problème et dans lequel comment le combattre. Ensuite, le 22-23 janvier, je serai à Lille avec Damien pour aller manger de la poutine et aller voir le FIC, qui est un événement tout à fait fantastique de côté européen. Et finalement, le 8 avril, le Secure, qui est un rassemblement de plusieurs organismes de sécurité dans lesquels ils vont présenter du contenu très diversifié, qui va rejoindre à peu près tout ce qui peut intéresser les gens, dont potentiellement des ateliers super intéressants de ce niveau-là. Donc, allons avec les nouvelles. La première, qui est un retour de ce qui s'est passé, un peu tout le psychodrame qu'il y a eu dans les derniers temps, suite à l'article de Bloomberg sur le fait que entre autres, Apple aurait des chips espionnes développés par mis sur les boards de Supermicro par les fabricants chinois. Depuis la sortie de cette nouvelle-là, il y a eu une panoplie d'articles qui ont sorti de personnes qui ont exprimé ouvertement que l'article était mal fondé, que il y a des incohérences, des choses comme ça. Certains experts qui, sous toute réserve, avaient contribué, ils disent que les choses ne se peuvent pas de cette façon-là. Du moins, c'est des scénarios excessivement compliqués. J'ai vu des articles sur les chaînes d'approvisionnement aussi qui expliquent que toute la difficulté associée à faire ce qui est mentionné dans ce cas-ci et la portée dans le temps de ce genre de choses-là, comment on peut articuler ça, qui n'est pas nécessaire d'une grande simplicité et en tout cas en apparence de ce qui est relaté dans l'article de Bloomberg. Et une panoplie de choses qui sont de ce côté-là. Donc, ça laisse planer un mystère, un, sur la qualité de l'information qui a été recueillie par Bloomberg. Le timing, dans ce cas-ci, est particulièrement intéressant puisque ça tombe en même temps que la volonté du président américain à mettre de la pression supplémentaire sur la Chine pour les relations commerciales. Et suivant ça aussi, les États-Unis font pression sur le Canada pour qu'on arrête de faire des acquisitions chez Huawei, qui est une compagnie de télécom chinoise, à ce cas-ci. Donc, il y a comme un timing, chose de clause de relations publiques. C'est sûr que les actions de Supermicro ont écrasé de façon monumentale. Ça serait intéressant aussi de voir s'il n'y a pas eu une tentative de manœuvre de manipulation des boursières là-dedans, parce que c'est comme, étant donné que ça l'a fait écraser un titre, est-ce que c'est de la fausse information, est-ce qu'il y aura des excuses plus tard? Tout ça est très mystérieux, puis il y a encore beaucoup de flou autour de cette nouvelle-là, qui à la même temps est très intéressante, comme on mentionnait la semaine dernière. Moi, j'ai pas, et Patrick non plus, on n'était pas très surpris du fait que ça puisse arriver, mais dans un cas d'aussi généralisé, aussi industrialisé que ça, c'est peut-être un peu moins probable avec les informations qui sont en train de se divulguer, ou du moins les experts qui se prononcent sur cette nouvelle-là. Vous aurez dans les show notes une panoplie d'URL et d'articles qui relatent tous ces éléments-là. Fort intéressant, puis c'est une enquête qui est une histoire qui va continuer, j'ai l'impression, pendant les prochaines semaines à nous occuper de tractation médiatique au niveau de la sécurité. Seconde nouvelle, parce que c'est une nouvelle peut-être un peu plus réjouissante en quelque sorte, et qui est peut-être une conséquence de la débandade de paquet d'autres choses, l'engin de recherche DuckDuckGo, qui est reconnu pour ne pas conserver d'informations, contrairement à Google. Dans le fond, c'est une espèce de réponse qui respecte la vie privée davantage. Parce que je pense qu'il avait été découvert qu'il y avait quelques petits tweaks étranges dans DuckDuckGo, mais dans l'ensemble, qui est beaucoup moins invasif au niveau de la vie privée que Google peut l'être, connaît une hausse très très rapide de son utilisation. Il semblerait que ça soit rendu à 30 millions de recherches par jour. J'ai pas les comparatifs chez Google à voir dans quelle proportion ça vient. À quel point ça influence ou est-ce que le poids que ça a, mais cette forte croissance-là est, à mon sens, probablement due à la débandade de Facebook, Cambridge Analytica et tous ces éléments-là qui viennent sensibiliser négativement le grand public au risque d'utilisation de des plateformes info-numériques dans lesquelles on est le produit et non le client. Donc peut-être que c'est une conséquence de ça, mais en même temps, c'est de savoir comment ultimement DuckDuckGo DuckDuckGo va pouvoir être capable de survivre financièrement à travers tout ça s'ils ne vont pas avec des revenus aussi clairs que dans le cas de Facebook. Ce sera intéressant de voir, mais je trouve ça intéressant de voir que le grand public est davantage sensibilisé à la protection de l'information. Donc, on va en avoir potentiellement changé d'air et changé un peu de perception dans ce sens-là. Fait que je pense que c'est une très belle avancée. Nouvelle suivante est justement en rapport à la vie privée. Facebook a annoncé que le FBI avait ouvert une enquête pour trouver la ou les dites personnes qui ont utilisé les failles de sécurité pour aller pomper des contenus des profils. Les derniers chiffres confirmés cette fois-ci sont plus autour de 30 ou 29 millions, tout dépendant des sources de quelles on regarde, que des profils qui auraient été accédés de façon illégale à travers le bug qui avait été trouvé dans la plateforme de Facebook. Et comme on l'a mentionné, puis je vais encore le mentionner, c'est un peu triste de voir ce genre de choses-là se dérouler, mais en même temps, comme individu, de mettre autant de focus sur une plateforme comme ça, ou autant de gens qui utilisent ce genre de plateforme-là pour faire ce qu'ils en font. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite aussi, là, qu'on ne peut pas regarder ça de la même façon qu'on l'a, comme que maintenant étant un engin finalement qui a lui aussi plus intérêt à collecter l'information, plus il collecte, plus il devient attrayant pour les attaquants. Donc on est comme dans un élément à risque. Dans les show notes, je vais vous ajouter un lien qui vous permet de vérifier si votre profil a été affecté par ou a été touché par la fameuse faille. Dans ce cas-ci, le mien ne l'a pas été, je l'ai vérifié, mais ça serait intéressant de voir s'il y a du monde qui écoutent le podcast ont été touchés par cette vulnérabilité et dans quelle mesure Facebook qu'est-ce que prévoit faire autour de ça. Puis c'est peut-être un moment d'amorcer une réflexion sur un usage plus peut-être décentralisé ou modifier des ce qu'on appelle les médias sociaux maintenant, là, qui sont une espèce de plateforme de vanité, si on veut, qui permet aux gens de faire valoir, au lieu d'être un outil efficace de partage d'informations avec un collectif qui nous intéresse vraiment, plus comme les plateformes Mastodon, je pense, ou en tout cas, je dois sûrement écorcher le nom, qui sont des plateformes fédérées dans lesquelles on peut déposer de l'information et dans lesquelles on demeure quand même propriétaire de cette information-là. Enfin, ça serait intéressant de voir comment ça va se dérouler dans le temps. Puis en même temps, pour certaines personnes avec qui je parle à mon entourage, pour certains c'est le déclin de Facebook qui est en train de s'amorcer, une chose que j'avais vu ou j'avais lu déjà il y a plusieurs années. Là, ça semble être beaucoup plus flagrant que ce déclin-là, et potentiellement comme MySpace, Facebook va peut-être être relégué à une plateforme de seconde zone, voire à trouver ça excessivement difficile à long terme. Autre nouvelle, l'Australie, le Parlement australien désire ouvrir, en tout cas mettre des backdoors ou des affaiblir la crypto qu'on utilise pour les communications. C'est un peu le même relan qu'on voit ou qu'on a vu aux États-Unis ou qu'on voit dans d'autres pays, surtout du Five Eyes, mais qu'on voit un peu en train de se généraliser au niveau des pays industrialisés. à laquelle ils veulent utiliser une forme de raccourci pour accéder à de l'information. Puis, comme souvent je le répète, l'idée, le principe en arrière est intéressant parce que c'est sûr que les forces de l'ordre ont un besoin d'accéder à de l'information maintenant qui est protégée par des clés de chiffrement souvent très efficaces. Mais en même temps, puis beaucoup d'experts dans le milieu l'ont dit à maintes reprises, affaiblir le protocole de crypto comme on le connaît à l'heure actuelle va être un élément dommageable très important puisque le commerce à l'heure actuelle s'appuie beaucoup sur le fait que la crypto est robuste et beaucoup d'autres éléments, autant même les corps de police, les services de renseignement, il y a une panoplie de gens qui utilisent la cryptographie de façon légitime, puis probablement 95 ou 99% des gens qui utilisent la crypto l'utilisent de façon légitime pour des besoins qui sont légaux et avec des finalités légales. Là, le problème, c'est est-ce qu'on va affaiblir l'ensemble ou une des bases robustes des liens de confiance qu'on a sur Internet pour l'affaiblir, pour que les autorités policières, entre autres, et autres, puissent avoir un accès rapide pour finalement que ces clés-là, ces skeleton keys, vont se retrouver dans les mains éventuellement, soit de pays totalitaires ou soit entre les mains du crime organisé. Et à ce moment-là, on vient de trouver dans une espèce de forme de cataclysme où on vient de complètement faire effondrer un système dans lequel on essaye de, à bien des égards, avec beaucoup de force, essayer de mettre de l'avant pour être capable qu'on puisse favoriser les échanges commerciaux à travers Internet. Et finalement, dernière nouvelle, semblerait qu'il y a un pirate gris qui est en train de corriger les failles de sécurité dans les routeurs microtiques. Il y a deux façons de regarder ça. C'est sûr que d'un côté, il y a un aspect positif à ce qui est en train de se passer parce que probablement beaucoup de ces routeurs-là sont dans des petites entreprises, dans des maisons, dans des PME. Et souvent des gens qui ont peu ou pas le temps et les moyens d'investir à corriger ce genre de problème-là, ce qui fait que ça crée un environnement toxique sur Internet avec des équipements vulnérables. Le problème à ça, le revers à ça, c'est que ce qu'il fait est illégal. Donc, à ce moment-là, est-ce que ce serait... Je prends une analogie peut-être un peu forcée, mais quand même. C'est comme si on avait un dégât d'eau à la maison. Quelqu'un vient rentrer chez nous pour arranger le dégât d'eau pour nous autres parce qu'il veut régler le problème. C'est de l'invasion à domicile. Il y a un paquet de préoccupations associées à ça, même si le geste est fondamentalement positif. Il demeure pas moins que cette personne-là brise la loi à bien des égards et ça laisse une espèce de malaise dans le sens où je suis pas confortable de laisser quelqu'un entrer chez moi de cette façon-là pour corriger les choses. Et de l'autre côté, il n'est pas démontré que cette personne-là n'injecte pas un code qui lui est propre après pour qu'elle puisse re-rentrer après ou modifier les différentes informations. Donc, il y a comme un double élément là-dedans. Puis, c'est dans le fond que c'est au stade où il faudrait revenir à une espèce de notion de santé publique sur Internet, c'est-à-dire que les périphériques qui sont considérés comme toxiques ou vulnérables, ou peu importe la terminologie qu'on veut utiliser, soit sorti de l'Internet. C'est-à-dire que il serait probablement dans ce cas-ci la responsabilité des fournisseurs Internet de fermer l'accès Internet à des résidences ou à des clients qui ont des équipements visibles sur Internet qui sont vulnérables ou qui sont dangereux à ce moment-là. C'est pas nécessairement une opinion très populaire. Mais je pense qu'au stade où on est rendu avec Internet puis avec tout qui s'en vient avec l'Internet of Things, entre autres, qui lui aussi va apporter son lot de problèmes, son lot de vulnérabilités avec des gens qui sont pas nécessairement outillés ou connaissants au niveau de la sécurité qui vont pouvoir les entretenir de façon adéquate, on se ramasse avec un désastre prévisible qui s'en vient. Donc, il faudrait peut-être mettre la main sur... En tout cas, mettre la responsabilité sur les fournisseurs Internet de corriger ce genre de problème-là. Il y a dans certains égards, certains hébergeurs web vont agir de la sorte quand ils détectent que des serveurs web ou des serveurs SMTP vulnérables sont dans leurs infrastructures. Ils vont généralement couper le client ou vont suspendre le client dans quelque fautif jusqu'à temps que le problème soit résolu, soit par le client, soit par une entité X qui peut aider le client. Donc, on est comme dans une zone où il faudrait adresser ça. Mais pour revenir pour la personne qui corrige ça, il demeure que son geste est illégal. Et tant qu'on n'a pas de peut-être meilleur encadrement au niveau législatif ou au niveau d'encadrement au niveau, je sais pas, en tout cas, au niveau des fournisseurs Internet à ce moment-là, on va se retrouver encore avec des gens qui vont vouloir agir de bonne foi, mais même si ça brise les différentes lois qui sont associées à ce genre de choses-là. Donc, ça fait pas mal le tour des nouvelles pour cette semaine. On devrait vous revenir avec des épisodes techniques prochainement. Là, on est dans une phase où il y a tellement de nouvelles en sécurité que celles-ci ont préséance sur les segments techniques. Mais on a deux ou trois segments techniques prêts à être diffusés qui seront dans les prochaines semaines, quand les nouvelles seront peut-être un peu plus ralenties au niveau de la sécurité. Mais comme c'est parti là, ça va pas dans cette direction-là. Alors, bonne semaine!